Il est 8h. Samba sans masque à Marseille. Alors que les réanimations saturent partout dans le pays, les images du week-end font scandale et les élus demandent pourquoi la police n'a pas évacué plus vite ce carnaval interdit. Comment une entreprise à l'image de marque familiale en est venue à espionner des salariés et certains clients? IKEA risque près de 4 millions d'euros d'amende. Et puis, une pépite française en difficulté, OVH, s'apprête à redémarrer ses serveurs après l'incendie qui a anéanti des milliers de sites internet. C'est le dossier d'Europe 1. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tandis que la France mise sur un confinement, on va dire hybride, allons voir les méthodes d'autres pays. Direction Israël ce matin, mon invité, le professeur Cyril Cohen. Il est franco-israélien et un double regard, on en a bien besoin en ce moment.
On vous retrouve à 8h15, Sonia. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h. Bonjour François Geffrier.
Bonjour. Masques et carnaval vont d'habitude plutôt bien ensemble. Mais ce qu'on a vu à Marseille samedi après-midi n'était pas un défilé de gestes barrières. 6500 personnes, bien souvent le visage découvert et plutôt rapproché. Image qui a de quoi étonner et faire réagir dans une région dont les réanimations sont pleines à 110% selon les derniers chiffres.
En direct de Marseille pour Europe 1, bonjour Stéphane Frangy.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes donc ce matin sur les lieux de ce rassemblement. Ce carnaval a laissé des traces.
Oui, effectivement. Là, je suis sur le bas de la Canebière, à l'angle du Vieux-Port, là où le cortège a fini par être dispersé. Il reste effectivement quelques stigmates. La carcasse du char du carnaval incendié, donc, qui est au milieu de la rue. Le carrousel voisin légèrement endommagé après avoir été escaladé de toutes parts. Et puis, il y a quelques tags encore anti-police sur des murs ou vitrines qui sont en train d'être nettoyés. Et en réaction, bien sûr, l'indignité unanime de la classe politique. Le maire de Marseille, Benoît Payan, dénonce l'attitude égoïste de quelques irresponsables. Rien ne justifie, selon lui, que l'on détruise les efforts collectifs pour endiguer le virus. Et puis enfin, la présidente de la métropole, Martine Vassal, envisage pour sa part de porter plainte.
Alors Stéphane, la question qu'on se pose encore à cette heure, c'est pourquoi ce rassemblement n'a pas été empêché ni dispersé rapidement par les autorités?
Alors, la préfète de police, justement, s'est expliquée auprès de nos confrères du journal La Provence. Nous ne pouvions pas, selon elle, interdire cette manifestation puisqu'elle n'était pas déclarée, tout simplement. Emmanuel Camilleri qui indique que la dispersion a fini par être décidée quand les dégradations ont été commises et puis surtout au moment où l'intervention des forces de l'ordre pouvait se faire en toute sécurité, avec ce bilan ce matin de 7 personnes interpellées et un policier blessé légèrement.
Merci Stéphane Frangy. En direct à Marseille pour Europe 1 et sur le plan sanitaire, plus globalement. On retient ce sondage ce matin. La confiance dans le vaccin d'AstraZeneca, suspendu 48 heures la semaine dernière. Cette confiance plonge. Un sondage YouGov le confirme. 63% des Français estiment que ce produit n'est pas sûr.
Défiance en hausse de 18 points en un mois, tandis qu'au Royaume-Uni, un pays de naissance de ce vaccin, eh bien c'est le contraire. Plus des trois quarts des Britanniques le jugent sûr.
Voilà une entreprise qui était déjà dans nos cuisines et jusqu'à nos chambres à coucher. Mais IKEA a poussé l'intimité un peu plus loin encore, puisqu'on parle d'une affaire d'espionnage. Des salariés, mais aussi des candidats à l'embauche, et même des clients en ont été victimes. IKEA France, deux anciens PDG, des directeurs de magasins et des policiers sont jugés à partir d'aujourd'hui à Versailles pour des faits qui datent de 2009 à 2012.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Ils sont tous soupçonnés d'avoir participé à un système de collecte illégale des données.
Oui, dès l'embauche, les salariés sont passés au crible et cela continue au cours de leur carrière chez IKEA. Pourquoi un tel roule en BMW? Pourquoi un employé modèle est devenu du jour au lendemain très revendicatif? Parfois, même les clients récalcitrants sont passés au fichier. Ces recherches transitent par le directeur de la gestion du risque à l'époque. Il envoie nom et date de naissance des salariés à des policiers et transmet les renseignements obtenus au directeur de magasin. Le directeur général d'IKEA France en copie pour les faits les plus graves. Reims, Tours, Rennes, Brest, Franconville, une vingtaine de sites a été identifié au cours de l'instruction. 600 000 euros, c'est le budget annuel alloué à ces recherches illégales, à raison d'une centaine d'euros par antécédent fourni. Est-ce que c'était une consigne généralisée, comme le soutient l'ex-directeur de la gestion du risque? Il affirme que c'est le directeur IKEA France en personne qui lui avait demandé ces recherches systématiques pour ne plus embaucher de voleurs. Il était impossible, explique-t-il au juge, de cacher quelque chose à IKEA.
Marion Dubreuil du service police. justice d'Europe 1. Autre procès qui démarre aujourd'hui. On se souvient de ces tags, cette statue en partie brisée, cette boutique pillée. C'était à l'intérieur de l'Arc de Triomphe et sur ses murs. Le 1er décembre 2018, lors du troisième samedi des Gilets jaunes, 10 personnes comparaissent à Paris, mais l'accusation le reconnaît, ce ne sont pas les principaux auteurs de ces dégradations. Près de 2 semaines après l'incendie qui a ravagé ces data centers de Strasbourg, OVH, leader en France de l'hébergement des sites internet, lance une opération délicate avec le redémarrage d'une grande partie de ses services.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour à tous.
Cet incendie avait affecté plus de 3 millions de sites internet le 10 mars dernier. On en est où aujourd'hui ?
Bien, les équipes d'OVH ont commencé la semaine dernière par rebrancher l'électricité et raccorder la fibre optique. Et depuis jeudi, elles rallument les serveurs au compte-gouttes. C'est un travail de fourmi. Rendez-vous compte, il faut inspecter les 29 000 serveurs pour savoir s'ils sont en état de marche. Sur les 4 bâtiments du site de Strasbourg, ce qu'on sait, c'est que le bâtiment 2 a entièrement brûlé. Toutes les données qu'il contenait sont détruites. Et dans le bâtiment 1, également endommagé par les flammes, un nouveau dégagement de fumée s'est produit vendredi. Résultat, il ne sera plus utilisé. Décision radicale d'OVH. Le reste, ce qui a pu être sauvé, va redémarrer cette semaine.
Alors, c'est la grande question qu'on pose depuis le début de cette affaire. Est-ce que des entreprises ont perdu toutes leurs données ?
Oui, ça concerne les entreprises qui n'avaient pas de sauvegarde de leurs données. On parle de centaines, voire de milliers de cas. Et puis, il y a aussi des entreprises dont le site n'a toujours pas été rétabli. C'est le cas, par exemple, de la Ligue nationale contre l'obésité. En fait, il faut savoir que depuis 10 jours, OVH déménage virtuellement ses clients sur ses centres de Roubaix et Paris, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Le site Domifab, par exemple, une entreprise de vente de meubles en ligne, est toujours inaccessible à l'heure où on parle. Son directeur général, David Montero, est très remonté.
Aujourd'hui, on n'a rien qui fonctionne. On perd plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce qui représente notre site en direct, plus de 35% de notre chiffre global. Nous avions souscrit à l'abonnement pour avoir une sauvegarde automatique de notre site, qui est censée se trouver sur 3 endroits différents. Et OVH, en fait, aujourd'hui, est incapable de nous dire où elles sont. C'est tout notre business qui peut s'écrouler du jour au lendemain.
Alors Clément, est-ce qu'OVH peut se relever de cet incident ?
C'est en tout cas ce qu'espère Octave Clabin, le fondateur. Sur Twitter, il a détaillé le plan pour remplacer tous les serveurs brûlés.
On a sécurisé l'approvisionnement des pièces pour fabriquer 10 000 serveurs qui vont être produits sur les 2-3 prochaines semaines. Et on est en train de travailler sur sécurisation encore des 5 000 serveurs, de sorte que sur le mois de mars, on puisse produire jusqu'à 15 000 serveurs.
Donc on l'entend, OVH, ce débat pour sauver son image, mais le résultat de l'enquête sera aussi déterminant là-dedans. Le feu serait parti d'un onduleur, un amplificateur de courant électrique qui avait fait l'objet d'une opération de maintenance la veille de l'incendie. En réponse aux critiques, OVH s'est d'ores et déjà engagé à relever ses standards en matière de sécurité.
Un onduleur qui met par terre 3 millions de sites internet. Merci Clément Le Saffre, ce dossier. Clément Le Saffre du service Économie d'Europe.
Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Xavier Bertrand qui va mener 2 campagnes en même temps, les régionales et la présidentielle. A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Ils sont 10 présidentes et présidents de région qui publient une tribune dans le Figaro ce matin pour s'opposer à un éventuel report des élections régionales au nom de l'espoir nécessaire à la vie et à la respiration démocratique. Texte signé par Hervé Morin, les socialistes Carole Delga et Alain Rousset ou encore les élus de droite Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand.
Et on comprend d'autant mieux cette volonté de maintenir le scrutin en juin à la lumière de cette autre information. Le même Xavier Bertrand sera bientôt candidat simultanément à 2 élections.
Oui, il n'attend pas que soient passées les régionales et va lancer cette semaine sa campagne présidentielle. Les coulisses de cette accélération du patron des Hauts-de-France avec Aurélie Herbement.
Dès fin mars, je vais sortir du bois fortement, confie Xavier Bertrand. Et à partir d'avril, je parle tout le temps. Voilà la droite prévenue, celui qui rêve d'être son candidat naturel ne va pas attendre que la crise du Covid soit moins aiguë, ni les régionales, ni l'automne pour passer à l'offensive. N'en déplaise au patron de LR, Christian Jacob, selon qui les Français n'ont la tête à la présidentielle qu'à partir de novembre. Jeudi, Xavier Bertrand dévoilera ses premières propositions dans Le Point. Dimanche, il sera l'invité d'Europe 1. Xavier Bertrand accélère quand d'autres candidats potentiels, comme Valérie Pécresse ou Laurent Wauquiez, ne bougent pas avant les régionales. Pour le président des Hauts-de-France, l'objectif est de s'imposer à droite, où certains prônent un tout sauf Bertrand, mais aussi aux yeux des Français. Un récent sondage le donne largement vainqueur en cas de duel avec Marine Le Pen. Encore faut-il accéder au second tour. Au premier, il est autour de 15%, mais il est persuadé qu'on s'intéressera à son projet si on se dit il peut battre Le Pen.
On parle présidentiel aussi au Congo-Brazzaville. Avec ce coup de théâtre, la mort d'un des candidats le soir même de l'élection, c'est-à-dire il y a quelques heures, cette nuit, Guy Brice Parfait-Colella était dans un avion médicalisé pour Paris, car atteint par le Covid-19.
Et il était déjà très essoufflé vendredi en enregistrant ce message pour mobiliser ses partisans.
Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour lui. Battez-vous. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci.
Guy Brice Parfait-Colella, qui était donc candidat face à Denis Sassou Nguesso, 23 ans au pouvoir au Congo-Brazzaville, qui espère l'emporter dès le premier tour. Internet est coupé dans le pays d'ici au résultat de l'élection attendue dans la semaine.
Prenons un peu de hauteur à présent, de hauteur historique, 4 siècles en arrière.
Oui, nous voilà donc en 1621, naissance de Jean de La Fontaine. C'était le 8 juillet, mais cette année 2021 va être riche en célébrations. D'ailleurs, des livres hommages commencent déjà à être publiés, Nicolas Caro.
Charles Perrault disait de La Fontaine qu'il plaisait à tout le monde, aux enjoués, aux sérieux, tant aux vieillards qu'aux enfants. C'est peut-être le secret de sa longévité. Tout le monde apprend et connaît encore quelques-unes de ses fables. Il en a publié plus de 240, Maître Corbeau sur un arbre perché, etc., La Cigale et la Fourmi, Le Lion et le Rat. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Les plus petits, justement, adorent et comprennent la morale des fables. Au rayon jeunesse, Alexandre Jardin propose les fables de La Fontaine dynamité, une réinvention des histoires illustrée par Fred Multier. France Télévisions diffusera des lectures des 241 fables lues par des comédiens, Zabou Breitman, Jean-Michel Ribe ou Elie Semoun. De nombreuses expositions sont prévues un peu partout cette année et la Pléiade publie le 15 avril prochain un tirage spécial consacré aux fabulistes. Moralité, La Fontaine est immortel et il nous accompagne toute la vie. On a presque l'impression de le connaître personnellement car comme il l'écrit dans Les Frelons et les Mouches à Miel, à l'œuvre, on connaît l'artisan.
Nicolas Caro, lui aussi, on en parlera peut-être dans 400 ans. Mbappé, qui a marqué ses 99e et 100e
buts. Nicolas Caro ou Kylian Mbappé?
Kylian Mbappé, ses 80e et 100e buts en Ligue 1. C'était hier soir, il a 22 ans seulement. À 8 journées de la fin, le PSG reprend la tête de la Ligue 1 grâce à son succès. 4-2 hier soir à Lyon.
Merci François Geffrier, parce que Nicolas Caro, il n'y avait aucun doute, évidemment. François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. 8h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et dans un tout petit instant, nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité, le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël.
Oui Mathieu, et on va tout de suite prendre la direction d'Israël et de Tel Aviv plus particulièrement. Cet entretien a été enregistré il y a quelques minutes avec le professeur Cohen. Bienvenue à vous et bonjour professeur Cyril Cohen.
Bonjour Sonia.
Merci de nous accorder cet entretien depuis Tel Aviv. Il y a 2 mois de cela, je vous interrogeais sur la situation sanitaire et vous nous aviez dit « nous sommes en pleine guerre contre la pandémie ». Vous étiez alors aussi en plein confinement très strict. Aujourd'hui, à l'aune d'une vaccination massive, est-ce que vous estimez avoir gagné ou du moins pris le dessus et le contrôle sur l'épidémie ?
Dans un sens, je tiens à vous dire que c'est une guerre. Et je pense qu'on a gagné une bataille parmi tant de batailles que l'on devra affronter d'ici, je dirais, le futur, d'ici quelques mois. D'un côté, nous sommes très enthousiastes et très optimistes vu les résultats, je dirais, de la vaccination que l'on voit aujourd'hui. Le pays revit, je n'ai pas d'autre mot. On revit, que ce soit les restaurants, les cinémas, que ce soit les gens dehors, que ce soit même au niveau, je dirais, de la gaieté, de manière générale, de voir nos enfants retourner à l'école de manière, je dirais, très joyeuse. Donc ça nous renforce beaucoup. D'un autre côté, nous savons très bien aussi qu'il nous restera des défis. Mais aujourd'hui, on peut dire quand même que sur le plan, je dirais, général, nous sommes positifs.
Est-ce que le lien entre la baisse de l'épidémie et la vaccination ne fait aucun doute pour vous, professeur Cohen ?
Oui, totalement. Vous savez, on avait confiné, donc comme vous l'avez justement dit, on avait reconfiné au mois de janvier. Donc on avait eu au mois de janvier un confinement. Et en général, parce qu'on avait déjà eu deux autres confinements, mis à part ce troisième-là, ce que l'on avait vu, c'est qu'après deux semaines de confinement, on commençait à avoir une baisse, justement, des cas. Et là, on ne l'a pas vu. Au contraire, on avait continué à avoir une hausse. Et finalement, les nombres de cas ont stagné. Et ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'à cause de nos prises avec le variant britannique, qui est une épidémie tout à fait différente. Hein. Je crois que ça nous a appris que le variant britannique se comporte de manière beaucoup plus agressive. Il est très, très dur, même avec un confinement, de le stopper. En fait, on s'est rendu compte que même après, donc justement, ce confinement, il n'y avait pas eu de progrès. Et la seule lumière au bout du tunnel, ça a été justement les vaccins. Et avec l'avènement des vaccins et le fait qu'on ait vacciné en masse pendant le mois de janvier, ça prend quand même du temps. Et ça, c'est aussi un autre message qui est très important. Même si on commence, je veux dire, aujourd'hui, ça prend quand même au moins 2 mois pour commencer à avoir des effets tangibles de la vaccination. Mais on s'est rendu compte que c'est la vaccination qui a été le moyen de stopper. Parce qu'en fait, vous le voyez de manière très simple. Dans les hôpitaux, que ce soit aujourd'hui ou il y a depuis quelques semaines, si vous rentrez et vous regardez quels sont les patients, ce sont des patients en général qui ne sont pas vaccinés. Les patients vaccinés, c'est une minorité.
Mmh. L'effet protecteur de la vaccination et en particulier du vaccin Pfizer a fait donc ses preuves en Israël. Mais avec quelle observation quant à d'éventuels effets indésirables ou effets secondaires? Y a-t-il eu des cas de thrombose?
Non, nous n'avons pas eu de cas de thrombose justement en ce qui concerne la vaccination avec Pfizer. Nous avons plus ou moins entre 0,3, je dirais, et 0,5% des personnes vaccinées qui ont eu des effets indésirables qui ont nécessité une assistance, ce qu'on appelle une assistance médicale, c'est-à-dire au moins voir un médecin ou plus. On a eu de très rares cas, je dirais, d'allergies et de chocs anaphylactiques, à peu près 1 à 2 sur 1 million de vaccinés. Mais mis à part ça, la plupart des effets que l'on a vus, c'est, vous savez, un état fébrile, de la fièvre, des douleurs à l'endroit de l'injection, quelquefois des ganglions qui ont un peu gonflé. Mais de manière générable, nous n'avons pas noté d'effet indésirable.
Mais alors, professeur Cohen, est-ce que vous comprenez la précaution, et certains disent même le précautionnisme de pays européens, dont la France, qui a suspendu quelques jours la vaccination, notamment avec le vaccin AstraZeneca, à cause de ces très rares cas de thrombose?
Je vous le dis sincèrement, je peux comprendre et je suis pour l'enquête. Il faut toujours enquêter, surtout lorsque c'est un médicament ou un vaccin qui est sous condition d'urgence. Mais je crois qu'il y a aussi un effet, entre guillemets, excusez-moi le mot, néfaste à ce genre de suspension. Parce que ça, déjà que là, je crois qu'il y a une crise de confiance dans le public en Europe. Suspendre comme ça la vaccination, je crois que ça a des effets encore plus terribles, hein, pour l'opinion publique, parce qu'en fait, le vaccin d'AstraZeneca souffre d'un problème de relations publiques, si je peux me permettre, et ça ne fait que rajouter à la suspicion du public. Donc je pense qu'il a été très important d'enquêter. Je crois qu'on aurait dû faire comme certains pays l'ont fait, hein, par exemple la Belgique a continué à vacciner en menant ou en attendant les résultats de cette enquête européenne. Je crois qu'il n'aurait pas fallu arrêter la vaccination, parce que chaque jour compte, chaque jour de vaccination, c'est des vies à sauver.
Professeur Cyril Cohen, vous étiez presque à saturation de vos capacités hospitalières mi-janvier. À ce moment-là, un confinement très strict s'imposait ?
Oui, bien sûr. Vous savez, on avait déjà décelé, je dirais, fin novembre, début décembre, cette amorce qui nous inquiétait beaucoup. Et donc, en fait, on est arrivé à fin décembre avec cette décision de confinement qui, à mon avis, a été un peu trop tard. Mais bon, vous savez, il y a des hésitations. Et donc, on a dépassé justement notre capacité, parce que notre capacité était fixée à 800, je dirais 800 lits pour tout Israël de cas graves et de réanimation. Et on est arrivé jusqu'à 1200. Je tiens à vous dire aussi que malheureusement, bien que les soins en Israël sont excellents et que notre taux de mortalité comparé au monde est moins, il est à peu près de 0,7%. 7%. Selon dont on s'est rendu compte, c'est que pendant le mois de janvier, vu qu'on était surchargé, il y a eu des cas, malheureusement, des cas, des personnes qui sont décédées à cause justement de cette surcharge. On le sait très bien. S'ils n'étaient pas surchargés, on aurait pu les traiter beaucoup mieux. Donc je vous le dis sincèrement, oui, il aurait fallu, ce confinement était totalement justifié, au moins pour stopper justement la propagation de l'épidémie.
Mais alors si on vous comprend bien, c'est un confinement strict plus une vaccination massive qui semble être un cocktail performant et efficace. En France, professeur Cohen, on essaie de freiner sans enfermer un confinement à l'extérieur en plein air. Comment vous réagissez à cela ?
Écoutez, je suis quand même un peu inquiet et frustré parce que il faut se rendre compte que ce virus circule très librement, surtout le variant britannique, et très 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 rapidement. Donc moins on confine à ce niveau-là, là où vous en êtes aujourd'hui en France, plus cette, je dirais, cet état va durer et l'épidémie continuera à se propager, surtout si vous ne vaccinez pas. En Israël, au mois de janvier, nous vaccinions à un rythme de 2% de la population par jour. Et c'est ce qui nous a permis, à la fin du confinement, justement, de rouvrir progressivement et justement de s'en sortir. Si vous ne combinez pas les deux, un confinement d'un côté plus une vaccination, ça va être très, très dur, justement, de stopper ça et de retourner à une certaine routine.
Alors, je sais que vous êtes un ami de la France et on entend votre inquiétude, professeur Cyril Cohen, à travers ce que vous nous dites. En France et en Europe, d'ailleurs, nous avons un problème de logistique, mais aussi de livraison de doses. On manque de doses. Comment vous jugez cette pénurie vu d'Israël?
Je connais les chiffres. Je crois que le fait qu'en Israël, nous avions justement commencé, parce que nous avions décidé dès le début que la stratégie vaccinale était notre stratégie de sortie. Et donc, nous avions justement entamé des négociations. Je sais que ça a été très lent en France, ces négociations. De part, je crois qu'il y a un problème, c'est pas qu'en France, hein, c'est l'Europe qui a négocié. Il y a un problème, je crois, quelquefois de bureaucratie où il faut en fait l'autorisation de plusieurs
Cohen.
Instances.
Oui.
Voilà. Et je crois que ça paralyse. Ça paralyse vraiment. Et je crois aussi le système à la base de vaccination, il est beaucoup plus centralisé en Israël, il est beaucoup plus performant parce qu'en Israël, nous avions et nous avons mis en place des centres de vaccination. Ce n'est pas un médecin généraliste. On n'a pas de guerre entre les pharmaciens et les généralistes pour savoir qui va vacciner. Ce n'est pas un médecin généraliste avec une fiole d'AstraZeneca qui doit décider quelles sont les 10 personnes qu'il doit inviter pour se faire vacciner. Ça, on n'a pas le temps justement de rentrer dans ces conditions. Là, parce que c'est la lenteur au niveau de la bureaucratie, c'est la lenteur aussi au niveau de la vaccination en elle-même. Donc ça, c'est une chose que je n'ai pas réussi à comprendre, surtout pour un pays justement comme la France, qui est un pays développé et qui a, par exemple, lorsqu'il en vient par exemple de la vaccination de la grippe, qui a une structure avec l'assistance publique qui permet de déterminer qui doit être vacciné et de le faire de manière, je dirais, assez performante.
En tous les cas, c'est un tout autre modèle et une autre méthode qui a été choisie en Israël. Et résultat, les terrasses sont à nouveau remplies, ainsi que d'autres lieux, comme les lieux culturels. Vous avez mis en place, professeur Cohen, un badge vert qui donne accès à différents endroits. C'est le sésame qui permet aujourd'hui de rouvrir vraiment l'économie. Pourquoi, selon vous, Israël est en passe de réussir? Est-ce que c'est aussi une question, certains le disent, de culture, de mentalité, comme on l'entend souvent? Certains affirment qu'il n'est pas possible de comparer l'Europe avec Israël, car les Israéliens sont plus enclins à accepter que leur donner soit livré à accepter un badge sanitaire. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, en Israël, nous sommes très pragmatiques, je dois vous le dire. Je suis franco-israélien, je connais les deux cultures. Nous sommes très pragmatiques. Je crois que lorsqu'on est en état de crise, on fait tout pour s'en sortir. L'histoire des données, je vous l'avoue sincèrement, ce sont des données anonymisées. Donc, à ce niveau-là, ça n'inquiète personne, surtout à une époque où toute votre vie s'étale sur Facebook, Instagram, etc. Donc ça nous a pas trop inquiétés, je vous l'avoue sincèrement. Bon, il y a eu des débats. Ça n'a pas été quelque chose qui a été acquis d'avance, etc. Mais les débats étaient très pragmatiques. C'est notre seule solution, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, une fois de plus, lorsque vous me demandez l'attitude de mes compatriotes israéliens à ce niveau-là, une fois de plus, on a vu qu'il y avait même quelques fois des hésitations, mais ces hésitations par rapport au vaccin ne sont pas celles que je vois en France. Les groupes anti-vaccins, on en a aussi en Israël, mais ce ne sont pas les mêmes. Je crois que ce qui nous a beaucoup aidé à convaincre le public, c'est les résultats.
Professeur Cohen, on verra dans les urnes, parce que demain.
Je ne sais pas. Ouais,
mais vous êtes quand même à la veille d'élections législatives importantes en Israël. On verra
c'est
si cette campagne sera un atout majeur ou pas à mettre au crédit de Benjamin Netanyahou. Ça compte évidemment.
Oui, bien sûr que ça compte. Je crois que c'est une manière. Mais enfin, bon, une fois de plus, on sait très bien qu'il y a eu, dans un sens, les élections peut-être jouent un poids ou ont un poids en ce qui concerne justement l'efficacité du déconfinement, etc. Mais d'un autre côté, nous sommes une fois de plus très pragmatiques. Le fait qu'on a des vaccins, je crois qu'on ne se pose pas trop de questions si c'est une question politique ou pas. La réponse que l'on donne, c'est qu'on sauve des vies tous les jours aujourd'hui en Israël grâce à ces vaccins.
Et c'est le pragmatisme qui domine également, on l'entend évidemment lors de cet entretien avec vous, professeur Cyril Cohen. Merci de nous avoir répondu ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci encore.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi.
8h28, vous êtes sur Europe 1. Tout de suite l'info, la météo, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
13h30 cet après-midi, le début du procès de 10 personnes accusées d'avoir participé au saccage de l'Arc de Triomphe. C'était en décembre 2018, troisième week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Les images avaient fait le tour du monde, statues brisées, boutiques de souvenirs pillées, taxes sur l'édifice, des dégâts à 1 million d'euros et un procès hautement symbolique dès aujourd'hui pour Jean-Philippe Morel, avocat de l'association Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique.
C'est le procès d'un saccage, puisque l'Arc de Triomphe, qui est un bâtiment plus que bicentenaire, a connu le 1er décembre 2018, je dirais, les pires heures de son histoire. Même la Commune de Paris ne s'est pas attaquée à l'Arc de Triomphe. Ce ne sont peut-être pas des instigateurs, mais des participants actifs au saccage qui seront jugés. Ce qui importe, c'est la réponse judiciaire plus que la sévérité. L'enjeu est symbolique. Il y a eu un émoi, je dirais, national, voire international. La France a donné la pire image d'elle-même ce jour-là. Il faut maintenant apaiser, réparer et que les casseurs soient reconnus coupables et responsables de l'atteinte majeure à ce beau bâtiment qui incarne l'histoire de France.
L'association défendue par Jean-Philippe Morel, seule partie civile qui ne demande qu'un euro de dommages et intérêts. Eux sont accusés d'avoir aidé Carlos Ghosn à sortir du Japon. Deux Américains récemment extradés des États-Unis ont été inculpés ce matin par des procureurs à Tokyo. Sortir plutôt que rester enfermé, la consigne des autorités, disons, détournée par 6500 personnes hier à Marseille. Oui, elles étaient dehors, mais parfois sans masque et souvent bien trop proche pour un défilé de carnaval dans les rues du centre-ville. Un rassemblement qui risque d'alimenter les contaminations sur place pour le virologue et membre du conseil scientifique, Bruno Lina.
Tout le monde veut sortir de cette pandémie, mais là on a l'impression que finalement on se donne le bâton pour se rebattre.
Bien sûr.
Parce que c'est typiquement ce genre de réunion qui vont entretenir l'épidémie, qui vont entraîner une augmentation du nombre de cas et qui vont faire que cette crise sanitaire va durer plus longtemps. Donc si on veut être cohérent avec soi-même, faisons un effort de façon à ce qu'on sorte très vite de cette crise.
Le virologue Bruno Lina avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Une crise qui dure et dont les conséquences sur l'état psychologique des Français inquiète l'exécutif. Réunion cet après-midi à Matignon sur la santé mentale des Français. Je suis le commandeur du Covid, les mots amusés dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin de Michel Sardou, cas contact de Roselyne Bachelot qui a annoncé samedi avoir contracté le Covid. Le chanteur s'était vu remettre des mains de la ministre de la Culture les insignes de commandeur de la Légion d'honneur vendredi dernier. C'est une place que le PSG n'entend plus quitter, celle de leader de la Ligue 1. Place reprise hier à la faveur d'une victoire 4-2 contre Lyon avec un doublé de Kylian Mbappé, désormais auteur de 100 buts en Ligue 1 à tout juste 22 ans. Et il ne compte pas s'arrêter là.
C'était une bonne date pour mettre le 100e but. Je savais déjà que j'étais à 2 buts. C'est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l'histoire. Voilà, c'est des choses qui restent. La route continue, elle ne fait que commencer. Voilà, j'ai encore beaucoup d'années devant moi pour me perfectionner, pour m'améliorer. Donc je pense que ça peut que aller mieux.
Kylian Mbappé chez nos confrères de Canal. Hier soir, le PSG qui a les armes pour aller au bout en Ligue des Champions. Les mots sur Europe 1 de Raphaël Varane, défenseur du Real Madrid et de l'équipe de France. Il était votre invité exceptionnel tout à l'heure à 7h40, Mathieu. Avant le match, hein, prochain match des Bleus, ce sera mercredi contre l'Ukraine. Match qualificatif pour le Mondial 2022.
Et c'est vrai qu'on retient Mbappé, bien sûr, on retient Benzema. Évidemment, il faut aussi, ce que disait Raphaël Varane au début de l'interview, trop de matchs dans la saison pour les joueurs, le public qui peut se lasser aussi, il faut retenir ça. La version longue de l'interview, plus de 20 minutes, est sur europe1.fr. Merci Marion Calais, il est 8h34 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Avec le troisième jour du printemps qui s'annonce avec toujours un petit parfum hivernal, mais ça ne va pas durer. Alors aujourd'hui, les températures sont basses à l'heure où nous parlons, hein, 0 degré, c'est pas énorme pour la saison à Besançon, 1 degré à Brest et Blois, 2 à Riquewihr en Alsace, 2 degrés à Bourges, 4 à Clermont-Ferrand, Cognac, Toulouse et Cahors, et puis 5 degrés à Paris et Tourcoing, 6 à Marseille et 8 à Hendaye. Températures actuelles, sans tenir compte du vent bien sûr, car le vent est encore présent. C'est un vent de nord qui est bien sûr, comme vous le savez, rafraîchi et même refroidi considérablement l'atmosphère. Aujourd'hui, quelques éclaircies, je dis quelques parce que le ciel se bat sans nuager sur la Normandie, la région parisienne, le nord, la Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace et Bourgogne, mais dans l'ensemble quand même, une impression de beau temps arrivera à prévaloir en fin de journée. Puis des régions région où il fera très beau. Bretagne, Cotentin, puis de la Loire, Poitou-Charentes, Sud-Ouest, Massif Central dans son ensemble, donc Limousin-Auvergne, région Rhône-Alpes, Mâconnais, Franche-Comté, bassin méditerranéen, presque les deux tiers de la France sous le soleil. Le vent 60-80 dans les Alpes, il s'agit du kilomètre heure, 70 en Méditerranée, température maximale entre 9 et 13 degrés, et demain ça sera pas mal du tout.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h35, dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et ce matin, je vous propose de prendre soin de votre santé en ne faisant rien, ne rien faire, et ce qu'il y a peut-être de mieux à faire pour votre cerveau.
Notre planète, Fanny Agostini, et la revue de presse de Nicolas Canteloup avant 9h. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe. Vous allez faire plaisir à de nombreux auditeurs ce matin, car vous nous proposez, pour rester en forme, hein, l'idée ça reste notre santé, de tout simplement rien faire.
Exactement, il y a plein de situations où on ne fait rien et pourtant il se passe des choses, notamment par exemple pendant votre sommeil. Lorsque vous dormez, vous ne le savez pas, mais vous métabolisez les émotions que vous allez accumuler en journée. On le sait, vous pouvez vous engueuler avec un collègue, avec votre épouse, et puis le soir vous allez ruminer. La nuit, on pense beaucoup plus à ce qui s'est passé, on n'est pas très bien, et puis on dort et le lendemain matin, on a tout oublié. Car durant la nuit, même quand on ne fait rien, eh bien, le cerveau fait pour nous.
Bah, est-ce qu'il y a d'autres situations où on pourrait ne rien faire ?
Eh oui, alors ça paraît tout simple, mais lorsque vous mangez... Alors, il faut bien comprendre que le cerveau n'est pas fait pour faire deux choses à la fois. On se moque souvent des hommes, et c'est vrai, ils ont un peu de mal à accumuler plusieurs tâches, mais malgré tout, eh bien, on n'est pas fait pour faire deux choses simultanément qui vont nécessiter une attention particulière. Si vous marchez, vous pouvez parler avec quelqu'un, sans problème, vous faites deux choses à la fois. En revanche, si vous marchez sur une patinoire et que vous voulez tenir une conversation, eh bien, vous n'y arrivez pas.
Ils sont sympas vos week-ends.
Eh oui, ils sont sympas, mais c'est pour vous montrer qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. On peut faire une chose automatique et autre chose. Ce qui veut donc dire que lorsque vous mangez, si vous regardez la télévision, si vous êtes sur votre téléphone, si vous faites quelque chose simultanément, eh bien votre cerveau ne peut pas décoder les deux informations. Et donc, vous allez plus manger et plus grossir. Ce qui veut donc dire que lorsque vous mangez, vous pouvez ne rien faire. C'est ce qu'on appelle manger en pleine conscience.
On fait comment alors ? On s'assoit et on ne fait... tout simplement rien.
Exactement.
C'est la prescription du matin.
Eh ouais, non, mais c'est en permanence, il faut qu'on soit connecté, qu'on soit tout le temps sur le téléphone, qu'on soit en hyperactif. Même quand on n'a rien à faire, on trouve toujours le temps de faire quelque chose. Or, il faut s'accorder des moments de rêverie. C'est simple, c'est 10 à 15 minutes où vous ne faites rien. Pas de téléphone, pas de mail, pas de chaîne d'information en continu. Vous laissez libre cours à votre imagination. Et comme je vous l'ai dit, même quand vous ne faites rien, eh bien votre cerveau fait pour vous. Certaines études montrent que même lorsqu'on est posé sans rien faire et qu'on se laisse à imaginer, à rêver, eh bien les zones du cerveau de la créativité et des associations d'idées vont s'activer. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que Paul McCartney a conçu la mélodie de la mythique chanson Yesterday en ne faisant rien. C'est durant la nuit qu'il a eu cette mélodie qui lui est apparue. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, c'est dur de reprendre deux yeux.
C'est dur.
Par contre, hein. La mélodie, vous dites. Et au début, il chantait Scrambled Eggs, les yeux brouillés. Il n'avait pas les paroles de Scrambled Eggs. Pendant des mois et des mois, ils lui ont dit, bon, à un moment, tu l'as fait ta chanson ou alors t'arrêtes de la jouer. Et ils ont enregistré ça. Incroyable. Merci Jimmy Mohamed, on finit en musique et on vous retrouve à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Il est 8h40 sur Europe 1. Notre planète, tous les matins avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Une étude publiée mercredi dernier révèle qu'une algue pourrait permettre aux vaches de larguer moins de méthane.
Asparagopsis taxiformis, c'est le nom de cette algue qui évolue dans les zones tropicales et tempérées qui pourrait réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage. Pendant 5 mois, des chercheurs ont introduit de petites doses de cette algue dans l'alimentation des vaches et là, bingo ! Ils se sont rendus compte qu'elle atténuait la fermentation dans l'estomac des ruminants. Et sur les différents troupeaux ayant suivi ce régime à base d'algues, les émissions de méthane qui provoquent des flatulences au bovins ont diminué de plus de 80%. Or, le méthane des vaches représente presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre total dans l'agriculture. Une algue qui, je le précise, n'altère ni le goût du lait des vaches, ni le goût de la viande de bœuf.
Une découverte majeure, hein, car le méthane est un très gros contributeur du changement climatique.
Oui, c'est vrai, le CH4, c'est la formule chimique du méthane, a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur à celui du CO2. Avec l'élevage intensif des bovins, la part du méthane dans les émissions agricoles a explosé ces dernières décennies. Et la perspective de réduire de 80% les rejets de ce gaz pourrait donc être un levier très important pour lutter contre le changement climatique.
Alors bientôt des champs d'algues pour nourrir les vaches ?
Eh bien, c'est là qu'il faut être prudent. Commencer à cultiver ces algues massivement pour parvenir à nos besoins industriels, cela perturbera sans aucun doute les écosystèmes et la biodiversité marine. En revanche, si l'on combine cette algue à une désintensification de l'élevage et un changement de l'alimentation des bovins, là, il y a de grandes choses à accomplir. Vous savez, rien qu'en laissant les vaches brouter de l'herbe plutôt que de les nourrir à base de granules, eh bien, ça peut réduire leurs émissions de méthane. Car laisser les vaches à l'air libre plutôt qu'en bâtiment, eh bien, ça les détend. Elles ont alors une meilleure digestion et qui dit détente dit moins de flatulences et d'éructations et donc moins de méthane. Si on veut pouvoir utiliser cette algue intelligemment, cela passera forcément par un changement des méthodes d'élevage et donc immanquablement sortir de la logique de production intensive de la viande de bœuf.
Merci Fanny Agostini, tous les matins, notre planète sur Europe 1. Allez, dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup, la revue de presse que Julie s'installe.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Eh oui, bonjour Julie, bienvenue sur Europe 1, si vous voulez de nous retrouver. Europe 1, regarde le monde changer. L'info du jour, c'est le premier week-end du confinement, qui n'est pas vraiment, vous l'avez remarqué, un confinement, mais un peu quand même. En effet, avec ces nouvelles mesures, le gouvernement tente d'encourager les Français à s'aérer, à se balader sans limite de temps. Vous pouvez donc jouer dans des parcs, courir, s'ébrouer en quelque sorte. Oui, c'est donc officiel, vous l'avez compris, je crois que le gouvernement nous confond vraiment avec des épagneuls bretons. Cela dit, positivons quand même, parce que le couvre-feu est passé de 18h à 19h dans certaines régions, donc on peut donc s'emmerder une heure de plus, c'est quand même très très positif. Et puis, l'infosport du jour, c'est la polémique avec ce carnaval illégal à Marseille. Oui, c'est fou qu'à Marseille, un carnaval ne soit pas légal, mais qu'un match de l'OM le soit. Pourtant, franchement, Julie, on en parlait à la machine à café avec Laurent Cabrol. Pourtant, c'est lui qui me le disait, le foot fait bien plus de mal à l'image de la ville que l'OM. L'OM fait plus de mal que le carnaval. Bon, enfin, on s'en fout, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. De toute façon, on n'a pas le droit d'aller en week-end à Marseille. On risque rien.
Mais c'est pas une raison. Allez, Mathieu, ça suffit. C'est bon. À peine Jean Castex avait-il prononcé le mot de reconfinement que les réservations TGV pour fuir Paris explosait. Depuis trois jours, les chaînes info filment dans les gares l'exode des Parisiens. Bonjour Anne Hidalgo.
Oui, l'exode des Parisiens, bonjour. Je précise quand même que je suis resté, moi.
Bon, bah, bravo à vous.
Merci.
Très bien de donner l'exemple.
Oui, et d'ailleurs, merci, mais je ne trouve pas ça très gentil de la part des Parisiens et des Parisiennes que j'apprécie de fuir quelque part la plus belle ville du monde, où il y a pourtant mille choses à faire, comme... je ne sais pas, moi, marcher, se promener ou flâner, regarder les vitrines fermées, passer devant les musées fermés aussi.
Oui.
Voilà. Bon, je vous accorde qu'on s'emmerde un peu à Paris ces 50 dernières semaines.
Et on confirme, allez. Les Parisiens fuient la capitale, mais vous savez que les résidents de l'île de Ré, par exemple, ou du Cap Ferret, n'aiment pas trop voir débarquer en masse les Parisiens.
Oh, écoutez... mais ne faites, je m'adresse à eux, habitants du Cap Ferret, de l'île de Ré. Mais ne faites pas la tête, les bouseux.
Oula.
Nous n'arrivons pas les mains vides, nous amenons le Covid. Et pas n'importe quel Covid, un Covid tendance, un Covid made in Paris, le dernier.
Eh bien, ils vont être ravis. Tiens, un petit mot du Cap Ferret, justement, une région rendue célèbre par le film Les Petits Mouchoirs. François Cluzet, bonjour.
Ouais, salut.
Alors vous êtes
ouais, tu le sais.
Un vrai ouais. Parisien, hein, né
bah
dans
ouais.
la capitale. Hein.
Bah ouais, je suis un vrai Parisien, tu sais, je connais bien Paris, je connais bien les Parisiens. C'est pour ça que dès que je peux, je me barre de cette ville de merde. Parce que la vraie vie, elle est ici, au Cap Ferret, ici on respire, les gens se parlent, on échange, on partage un verre de rosé, tu vois, je vais voir mon copain pêcheur, Bernard Guitard, un petit Carpaccio de mule, une bouche d'huître. Mais putain, mais Mathieu, Mathieu, Julie, faites pas les cons, on n'a qu'une vie, venez, merde.
Bah écoutez, pour l'instant, on va rester ici. Hein. Merci François Cluzet. Ce week-end, l'exécutif a renoncé à l'attestation de déplacement dans les 16 départements concernés par les nouvelles restrictions. Bonjour Jean Castex.
Bonjour Madame Julie, Monsieur Béliard, que j'ai la chance avec qui j'ai pu changer il y a quelques minutes. Bonjour à papy et à mamie qui pourraient, se déplacer librement et sans attestation, si au moins ils arrivaient à marcher 10 kilomètres. Mais c'est vrai qu'à 95 ans, que voulez-vous ? On est moins fringants. On ne va pas faire des grandes randonnées forestières en déambulateur.
Comme vous dites, oui.
Car il y a très peu de déambulateurs 4x4.
Quoi qu'il en soit, cette attestation était excessivement compliquée, vous l'admettez quand même.
Oui, oh, encore que, c'était quand même relativement simple.
Quoi ?
Bah écoutez, si on résidait, je prends la teneur du texte, oui. Si on résidait à moins de 10 km de l'un des 16 départements susmentionnés, dont la liste était donc en annexe du premier article de la dite attestation, de promener son chien dans un rayon d'un kilomètre des départements suscités, à condition, bien sûr, d'être seul.
Oh là là.
Hein, et d'éviter donc les regroupements qui sont toutefois autorisés dans le kilométrage susdit, à condition d'être afférent au département concerné. Donc vous le voyez, monsieur Cabrol, hoche de la tête, je ne vois pas ce qu'il y a d'extrêmement compliqué.
Cela dit, maintenant, maintenir une attestation en journée alors qu'on pouvait sortir sans limite de temps, bah, ça ne servait à rien, monsieur Castex.
Madame Julie, monsieur Béliard, regardons-nous dans les yeux. Je représente l'administration française. Produire de l'absurdité bureaucratique est peut-être notre plus grand savoir-faire. Il est j'ai compris entre les lignes de l'interview de Mme Mabrouk que notre savoir-faire est à ce niveau reconnu à l'international, même jusqu'en Israël. C'est l'exception culturelle française.
Et puis tiens, cette info n'est sortie que ce week-end. Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont revus pour un dîner secret. C'était le mardi 9 mars.
Et allez, ben bravo, jaloux, écoutez,
hein.
Non, écoutez, on revoit donc quelque part son ex en cachette. Je crois qu'effectivement, vous l'avez compris, ce n'est pas très bon pour la confiance du couple exécutif. Je m'adresse au président Emmanuel Macron. J'avais pourtant proposé, Emmanuel, ce jour-là, de nous faire un petit plateau repas avec une escalope cordon bleu devant un bon DVD de Charlot-Fond l'Espagne. Bon, il m'a répondu, non, j'ai mal à la tête. Il est un peu coquinou quand même.
Non, mais vous n'êtes pas jaloux d'Edouard Philippe, un petit peu, Jean Castex.
Mais non, mais alors, mais pensez-vous. Mais non. Vous savez, on est jaloux quand votre partenaire va revoir son ex. Et que cette ex est plus belle, plus intelligente, plus jeune et plus, comment on dit, successful.
Successful.
Successful, voilà. Mais là, avec Édouard Philippe, non, ce n'est pas le cas. Hein, ce n'est pas le cas.
Joker, hein, pour moi. Merci, alors, monsieur le Premier ministre. Roselyne Bachelot est positive au Covid et on est en duplex avec elle ce matin. Bonjour, Roselyne.
Oui, ma chère Julie. Bonjour, monsieur Béliard. Non, écoutez, ne vous inquiétez pas, je me suis mise à l'isolement tout de suite. Personne ne risque rien.
Tout va bien, alors, pas de symptômes trop gênants?
Ça va, écoutez, bon. Je n'ai pas perdu le goût, c'est déjà ça. Je le sais parce que je me suis mis un film français. Sur des copains qui font une bande de copains qui font des barbecues l'été au Cap Ferret, en couchant les uns avec les femmes des autres, enfin bon bref. Et j'ai quand même trouvé ça à chier. Donc ça veut dire que j'ai perdu le goût.
On t'emmerde, Roselyne. Tu comprends ça, on t'emmerde.
Alors Roselyne Bachelot, vous allez être à l'isolement pour 7 jours, c'est ça?
Bah écoutez, pour une fois, j'aurai une excuse de mon médecin pour rien foutre. Hein. Et je m'adresse aux intermittents. Les intermittents, n'en profitez pas pour ouvrir des salles de spectacle. Vous voyez bien que ça rend malade d'aller au concert.
Ah bah tiens, parlez-nous de Michel Sardou. Vous l'avez fait commandeur de la Légion d'honneur.
Oui. Alors que j'étais contaminante, donc j'ai quasiment décoré à titre posthume.
Non, je plaisante. Humour, écoutez, humour, j'ai fait pire aux grosses têtes, vous savez. Non, faut rire de temps en temps. Non, mais vous vous rendez compte, si Michel Sardou meurt, sur sa tombe, on écrira Michel Sardou, 1947-2021, tué par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Non, je n'y tiens pas. Ça ferait mauvais genre, avouez-le. Parce que vous savez que j'adore Michel Sardou.
Ah bon?
D'ailleurs, toute ma politique culturelle est inspirée d'une de ses chansons.
Ah oui ?
Ben oui, j'ai une politique de terre brûlée, au vent des landes de pierre, autour des lacs.
Merci, merci, ça ira, Roselyne Bachelot. Oui. Non, Michel Sardou, tiens, une réaction, vous êtes là, allez-y.
Mais m'emmerde, Bachelot. Et en plus, vous avez entendu, je chante mal. Je chante
Vous dites qu'elle vous emmerde.
Bachelot, je m'en fous. Ouais,
bah, pourquoi elle vous emmerde ? Elle vous a refilé le Covid ?
Mais non, elle m'emmerde parce qu'elle a fermé les théâtres, elle ferme les théâtres. Moi, ce que j'aime, vous le savez, c'est le théâtre. Mon père faisait du théâtre. Ma mère faisait du théâtre. Mes enfants font du théâtre. Et il n'y a que Bachelot qui veut pas de théâtre, franchement.
Allez, merci Michel Sardou. Et puis, un petit mot sur... un petit mot quand même sur l'exploit du 15 de France samedi soir. Bonjour Bernard Laporte.
Oui, effectivement, exploit. Vous avez utilisé le mot juste, Julie, puis je peux te tutoyer, puisque tu le sais... T'as vu les audiences télé de samedi soir, on a battu The Voice, c'est quand même une performance. Là, j'ai fait mon Vandel, mon fils Vandel. J'annonce les audiences télé. On a quand même plaqué le commissaire Magellan, on a détruit The Voice, on a détruit Florent Pagny, on a laminé Vianney. Il était où Vianney ? Eh bien, il était pas là, Vianney.
Il était où, pas là. Oui, enfin. Voilà, vous avez surtout battu.
Vandel est là, il est toujours pas là.
Il est là. Je vous écoute.
Pardon, j'avais pas vu.
Il est là.
C'est bon, pardon.
Enfin, vous avez surtout battu le...
Non, parce que la radio, il ne le voit pas. Je suis oublié. Voilà, vous avez compris. On enchaîne.
Bon, ben Bernard, le match était fou quand même. Hein, cette victoire contre le Pays de Galles, avouez. Hein.
C'est vrai. D'ailleurs, je tenais à m'adresser au ministre de la Santé, Olivier Véran. On vient de trouver un nouveau symptôme du Covid. Après la perte de goût, la perte de l'odorat, le Covid fait bien jouer au rugby. Ça fait bien jouer au rugby.
C'est un effet secondaire.
Vous notez, depuis qu'ils ont tous été positifs, mes joueurs, ils jouent bien au rugby. Donc, je veux dire, Roselyne Bachelot, Roselyne, viens jouer vendredi contre l'Écosse. T'as un beau physique de pilier, Roselyne. Tu es positive. Tu m'intéresses dans le pack, Roselyne.
Oh là là là, mon Dieu.
On va prévenir l'OMS. Le Covid fait bien jouer au rugby. Merci Nicolas Canteloup. Et bravo à Philippe Cabrivière, Laurent Vassilion, Arnaud Demange, les auteurs de la revue de presse. On retrouve Nicolas Canteloup et Julie sur Europe1.fr. Et demain matin, à la même heure, bien sûr, 8h45. 9h11, c'est Culture Média. La matinée continue avec Philippe Vandel. Il est là, vous l'avez
entendu.
Oui, bien
sûr que je suis là. Bonjour Mathieu. Et ce matin, on reçoit une icône nationale dans Culture Média. On reçoit Michel Drucker. Première participation radio après 6 mois de convalescence. Opération à cœur ouvert. Il a failli être amputé de la jambe. Il revient, son grand retour à la télé, c'est dimanche, dans Vivement Dimanche, et c'est dans quelques minutes, dans Culture Média, Michel Drucker. Au sommaire également, la comédienne Zabou Breitman, elle est aux côtés de Kad Merad et Gérard Depardieu dans la nouvelle série événement de TF1, ça s'appelle Un homme d'honneur, ça démarre ce soir sur la Une. Et puis notre info média du jour va mettre à l'honneur la semaine de la presse et des médias à l'école.
Je le souligne, Michel Drucker, dans Culture Média, dans quelques toutes petites minutes, pardonnez-moi de le redire. Je vous laisse la main, Philippe, je vous laisse le studio Lagardère d'Europe 1. 9h-11h, c'est Culture Média, je vous souhaite une très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Je reviens demain matin, en direct, dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.